Le journal présenté par Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir. Nous sommes le samedi 2 septembre et l'actualité cherche à faire des additions. Aux États-Unis, on compte les milliards, près de 8 pour financer la reconstruction des zones inondées. Après la tempête Harvey, Donald Trump se déplace à nouveau sur place pour rencontrer cette fois des sinistrés, nous dira Philippe Randet. Dans la Somme, les opposants à la loi de travail doivent eux aussi se compter lors d'une première manifestation avant les appels à la mobilisation des 12 et 23 septembre prochains. Grégoire Le Callot est déjà sur place pour une première estimation. À la Baule, ce sont les amis de François Fillon qui se comptent lors de l'université d'été des Républicains. Pour le président du groupe LR au Sénat, il est grand temps que la droite retrouve son union. Nous entendrons Bruno Retailleau dans ce journal. La météo pour demain, nuages, soleil et retour de la pluie dans l'ouest du pays. Retour sur les lieux de la tempête Harvey pour Donald Trump. Le président américain a prévu de passer par le Texas et la Louisiane. Il avait déjà effectué une première visite sur place mardi dernier, où il avait rencontré alors des élus locaux et des secouristes. Mais cette fois, l'objectif est d'échanger avec des rescapés. Bonsoir Philippe Randet, vous êtes sur place à Houston.
Bonsoir. Bonsoir.
Et donc, rencontrer des rescapés, c'est l'objectif?
Oui, le 45e président des États-Unis doit atterrir ici à l'aéroport militaire d'Ellington, au sud de Houston, dans une vingtaine de minutes. Donald Trump, vous le savez, qui est très très mobilisé autour de la première catastrophe naturelle de son mandat. Il a promis de faire un don personnel $1 million. Mardi dernier, il est déjà venu avec Melania, sa femme, à Corpus Christi sur la côte texane. Il est passé aussi par Austin, mais il n'avait pas pu se rendre à Houston car il ne voulait pas gêner les secours. Et ici, même si les opérations se poursuivent, la décrue est amorcée, il fait soleil et Donald Trump va enfin pouvoir s'afficher auprès des sinistrés, ce qu'il n'a pas fait mardi. Il tient absolument à montrer un peu d'empathie, ce qui n'est pas sa principale qualité. Il va donc se rendre dans un centre d'accueil, des centres où plus de 40 000 personnes dorment toujours, rappelons les chiffres, hein. Au moins 42 morts, plus de 100 000 maisons endommagées, 436 000 foyers qui ont déposé une demande d'aide. La Maison Blanche a demandé hier au Congrès de débloquer en urgence près de 8 milliards de dollars pour aider les victimes. Le gouverneur du Texas a expliqué lui que son État pourrait avoir besoin de plus de 100 milliards de dollars pour faire face à des mois de reconstruction. L'Amérique est avec vous, a tweeté Donald Trump, qui après sa visite à Houston se rendra donc en Louisiane.
Merci Philippe Randet en direct de Houston pour France Culture. Comme un petit goût de dissuasion en Corée, Washington et Séoul se sont mis d'accord pour renforcer les capacités de la Corée du Sud en matière de missiles. Un accord qui intervient quelques jours après le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique au-dessus du Japon. Conséquence, les deux pays ont décidé de confirmer leur alliance et leur coopération militaire. Cela se traduira par l'achat par la Corée de plusieurs millions de dollars d'équipements militaires américains. À Séoul, Frédéric Ojardias.
L'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis sera renforcée en réaction au comportement déstabilisant et porté à l'escalade de la Corée du Nord, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Communiqué qui se félicite de l'achat prévu par Séoul de plusieurs milliards de dollars de matériel militaire américain. Le communiqué officiel sud-coréen est lui plus précis. Il révèle que Donald Trump et Moon Jae-in sont parvenus à un accord de principe pour réviser un traité bilatéral qui interdit à la Corée du Sud de posséder des missiles balistiques de plus de 800 km de portée et de 500 kg de charge utile. Cette charge devrait passer à 1000 kg selon le souhait de Séoul. Par contre, le retour d'armes nucléaires américaines en Corée du Sud ne semble pas être à l'ordre du jour. Juste avant cette conversation téléphonique entre Trump et Moon, la présidence sud-coréenne avait déjà exclu un tel retour qui est évoqué avec insistance après le dernier tir nord-coréen. Enfin, le bureau présidentiel sud-coréen révèle que Trump et Moon ont réaffirmé au téléphone leur volonté de ramener la Corée du Nord à la table des négociations pour résoudre la crise nucléaire de façon pacifique. Cette volonté de dialogue ne figure pas sur le communiqué de la Maison-Blanche. Donald Trump avait même déclaré sur Twitter que discuter avec Pyongyang n'était pas la réponse. Un commentaire que son propre ministre de la Défense, James Mattis, avait désavoué en assurant que les États-Unis n'avaient pas encore épuisé toutes les solutions diplomatiques.
Il faut savoir qu'actuellement, ce sont 28 500 soldats américains qui sont stationnés de façon permanente sur le territoire sud-coréen. Direction le juge d'instruction pour le député Mjid El Gheram, le député de La République En Marche, accusé d'avoir blessé à coups de casque le scooter un cadre socialiste Boris Faure, a rendez-vous avec un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire avec arme. Un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime a également été requis. Petit tour de chauffe avant les mobilisations des 12 et 23 septembre contre la loi travail. En attendant les manifestations de la CGT et des Insoumis, la grogne prend la forme d'une marche anti-Macron. Elle se déroule à Saint-Ouen en Picardie, une marche organisée par François Ruffin, député France Insoumise de la Somme et réalisateur du film Merci Patron. Marche à laquelle vous assistez, Grégoire Le Callot.
Oui, et on est vraiment au cœur de la circonscription de François Ruffin ici, hein, dans un des secteurs les plus défavorisés en termes d'emploi de la Somme. Le député Picardie Debout, France Insoumise, y a fait 40% au premier tour des législatives, mais à la présidentielle, Marine Le Pen a fait le même score au premier tour. Alors pourquoi ce rendez-vous annoncé comme la première manifestation anti-Macron de France ? Est-ce qu'il y aurait l'idée de griller la politesse en quelque sorte à Jean-Luc Mélenchon ? Pas du tout, hein, répond-on ici. C'est simplement une question de chronologie. C'est la première de la rentrée politique. Et pour François Ruffin, il s'agit, dit-il, d'un travail de terrain pour mobiliser au niveau national. Il faut commencer par le niveau local, là où l'indifférence éloigne les gens de la politique, explique le député, qui assure qu'il sera dans la rue avec la France insoumise pour la grande mobilisation nationale.
Merci Grégoire Le Callot, en direct de la Somme. Dans la famille Fer contre mauvaise fortune, bon cœur, les Fillonistes, les partisans de l'ancien candidat à la présidentielle, se réunissent ce samedi à la Baule. Une étrange réunion à laquelle ne participe pas François Fillon. Ce dernier a en effet quitté la vie politique après sa défaite et laisse donc seul ses partisans. Du coup, l'avenir de son courant repose notamment sur les épaules de l'un de ses proches, à savoir Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat et possible candidat à la présidence des Républicains, tente de rassembler comme il peut la famille orpheline, Bruno Retailleau.
Moi, ce qui m'importe, c'est le débat d'idées. C'est qu'est-ce qu'on va proposer aux Français concrètement pour relever la France. C'est ça que les Français veulent. Bien sûr, il y aura un combat de chef, mais ce combat-là, il va avoir lieu, il sera tranché par une élection. C'est les militants qui vont le trancher. En tout cas, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les vieilles catégories sont terminées. Il ne doit plus y avoir de fillonisme, de sarkozyste, de juppéiste. Cette page, elle est close. Et si la droite ressasse ce vieux passé et ses primaires, si elle bégaye, elle échouera. C'est pas ce qu'attendent de nous les Français.
Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, au micro de Cyril Graziani. Esprit, es-tu là ? C'est la question qui se pose à Lille alors que se déroule ce week-end la traditionnelle braderie. Annulée en 2016 après l'attentat de Nice, la braderie a fait son retour cette année sous très haute sécurité. Mais voilà, les règles ont changé, rendant la fête moins spontanée. Il faut s'inscrire pour exposer, il faut passer des barrages de police. Bref, la braderie de Lille, malgré tout, garde-t-elle son atmosphère bien particulière ? Élément de réponse avec le reportage sur place de Jules Dequis.
Ce qui ne change pas, ce sont les bonnes affaires. On en fait toujours. François et sa femme cherchaient une poussette pour leur futur fils.
Pour le chiot qui arrive d'ici quelques mois, on a acheté la poussette. On a vu avec la braderie avec cet objectif. C'est fait, on a trouvé la poussette. Le gars, il me l'a vendue à 10 euros. On a un peu négocié, il la faisait à 20 à la base. Mais voilà, c'est une bonne affaire et la braderie, elle est réussie.
Malgré la grisaille, malgré les patrouilles de militaires, l'ambiance reste bonne. Cyril est même tout heureux d'avoir devant son stand l'un des 500 blocs de béton anti-voiture bélier. Il y expose ses bibelots.
Le présentoir officiel de la ville de Lille, avec le magnifique bloc Lego, là, ça nous fait un présentoir de plus pour toutes nos bonnes affaires.
Sabrine, elle, est moins souriante, habitante de Oisem, quartier exclu du périmètre cette année. Elle a dû s'expatrier près de République en centre-ville.
L'esprit de la braderie, c'est de la proximité, c'est les citoyens qui débarquent leurs affaires sur le trottoir. Leur demander de changer de quartier, c'est pas dans l'esprit de la braderie.
Ambiance différente avec peut-être un peu moins de monde, mais des gens qui achètent, et peut-être plus que d'habitude après 2 ans d'attente.
Et fin de la braderie demain soir. Il y a des records dont on ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais. En tout cas, l'été 2017 a été en France le deuxième plus chaud depuis 1900. En moyenne, les températures ont été supérieures de 1,5 degré, explique Météo France. Seul l'été 2003 a été plus chaud. 2003, c'est l'année de la fameuse canicule à l'origine du décès en France de 15 000 personnes. La météo, justement, pour demain, la pluie revient par l'ouest le matin. Elle commencera à tomber en Bretagne avant de s'inviter dans la Manche et en Aquitaine. À l'est, le soleil passera à travers les nuages et dans le sud, c'est du soleil et du vent au menu de demain. Les températures entre 18 degrés dans le nord et 28 dans le sud.